Merci beaucoup, Mathias. C'est maintenant l'heure de parler de cette balloune qui dégonfle de Mark Carney. Et quoi de mieux pour se mettre en contexte qu'un bon vieux montage TikTok mettant en vedette Mélanie Joly, la ministre présentement du Développement économique?
Les Canadiens et les Américains savent maintenant qui succédera à Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. Ce sera Mark Carney. Quel est l'impact de l'arrivée d'un nouveau premier ministre dans la guerre commerciale qui oppose le Canada et les États-Unis? Et quelles sont les différences entre Justin Trudeau et Mark Carney?
Ce sont des personnalités complètement différentes. Le premier ministre Trudeau, c'est un homme qui est fondamentalement un politicien de terrain, une personne très empathique qui se nourrit des foules.
Mark Carney, c'est un homme très compétent, très calme, qui est un néophyte en politique, qui doit apprendre à composer avec les foules. Lui va être capable aussi d'avoir un plan de match pour la suite des choses, les conséquences économiques, le maintien des emplois et la croissance économique malgré le fait qu'il y a la menace américaine. Donc, c'est plus que gérer Trump ce qu'il faut. C'est une personne qui est capable de gérer les conséquences de Trump.
Gérer les conséquences de Trump. Est-ce que Mark Carney sera capable, alors qu'il a admis lui-même hier qu'on aurait des tarifs, peu importe l'accord qu'on aura avec Donald Trump et les États-Unis. Il a cité en exemple le Royaume-Uni avec les tarifs qui se sont poursuivis sur la marque Rolls-Royce, la marque de voitures provenant de ce pays. Jacinthe, ça te dit quoi tout ce qui se passe présentement? On parlait d'un accord possible lors du G7 mi-juin. C'est pas arrivé. Là, après ça, c'était... Je vais le dire comme ça, on parlait pas beaucoup des négociations, ouais. Donc c'était bon signe.
Ouais.
Parce qu'on se disait, quand ça parle pas des négos, ça veut dire que ça avance bien. Oups, Trump est sorti en fin de semaine en disant, savez-vous quoi? La lettre que j'ai envoyée du 30% de droits de douane, c'est l'accord pour moi. Et là, Mark Carney sort hier, après la rencontre avec ses ministres responsables, et dit, savez-vous quoi? Il va en avoir des tarifs.
Ouais.
On est descendu en crime de la lune de miel, de la montagne qu'on avait érigée, de tout ça. Là. On est dans la réalité, je vais redire ce que je dis.
Ben oui.
Toc, 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 la réalité est arrivée, les amis.
Ben oui, parce qu'il reste encore l'échéancier du 1er août avant que ces tarifs s'appliquent. On est le 16 juillet.
Donc, il reste 15 jours.
Quand, à 15 jours de l'échéancier, on s'annonce peu confiant d'atteindre... une résolution positive pour les Canadiens, c'est extrêmement inquiétant parce que ou bien il manque beaucoup de confiance en lui ou bien il est convaincu d'avoir déjà perdu le match.
Ouais.
Mais on le sait, là, dans la mentalité des sportifs, des hommes d'affaires, même en politique, tu peux pas te déclarer perdant deux semaines d'avance.
Mais non, c'est ça. Là, la voie est tracée pour que Trump prenne le contrôle de cette négociation-là.
Absolument. C'est vraiment une posture de grande, grande faiblesse que de dire probablement... Je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, là, mais de se montrer peu confiant qu'on n'aura pas de tarifs dans deux semaines. Hey, c'est long, deux semaines, puis on en a des leviers. On en a des leviers là, pour diminuer ces tarifs-là. Ben, tout d'abord, la gestion de l'offre. C'est un levier, vous allez dire, qui va nous coûter cher au Québec parce qu'il y a tout le mouvement syndical... et l'UPA qui y tient mordicus, backé par ou soutenu par une bonne partie de la classe médiatique qui va monter aux barricades si on remet en question le modèle de la gestion de l'offre. Imagine, même le Parti conservateur du Canada ne remet pas en question le modèle de la gestion de l'offre.
Ouais.
Ils n'ont même pas voulu aller là tellement que c'est un enjeu délicat. Ils savaient qu'ils risquaient de perdre des électeurs en campagne électorale fédérale. Donc, il n'y a que Maxime Bernier qui a osé, dans les élections fédérales passées, dire « Moi, je remets en question le modèle de gestion de l'offre, le libre marché,
il
c'est
l'avait
ce
fait
mieux.
D'ailleurs lors de la campagne pour devenir chef du Parti conservateur contre Andrew Scheer, si je ne me trompe pas.
Oui.
Il avait perdu à peu près par 0,5%. On avait pointé du doigt des agriculteurs qui avaient pris leur carte de membre du Parti conservateur.
Exactement. Donc, il y a vraiment un lobby extrêmement puissant
vraiment.
Pour protéger la gestion de l'offre. Mais je vous rappelle, la gestion de l'offre, c'est d'avoir des quotas dans les œufs, dans le domaine, dans la vente des œufs, la production et la vente des œufs. Donc, on a des quotas d'œufs, des quotas pour le lait et des quotas pour la volaille. travail. Et ça, ça fait en sorte qu'on maintient un contrôle sur les producteurs, le nombre de producteurs qui produisent. On maintient un contrôle même sur leur production. C'est ce qui fait qu'on voit parfois des reportages d'agriculteurs, de producteurs laitiers qui jettent carrément le lait parce qu'ils ont atteint leur quota de vente de lait et qu'il y a un surplus de production.
Ah,
alors, ils jettent carrément le lait.
Je suis déjà allé visiter des fermes. Puis, ils me disent, regarde, je le jette là, le lait.
Ben oui. C'est jeté parce qu'ils ont un quota et les vaches sont plus productives dans cette période-là et il y a trop de lait. Donc, on le jette plutôt que de l'envoyer à des banques alimentaires ou plutôt que de s'assurer qu'il y a des gens démunis qui ont de la misère à arriver puis qui ne mangent pas en bénéficie. Et on empêche aussi les marchés étrangers de venir s'installer ici puis d'apporter de la concurrence. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on évite la concurrence aux producteurs d'œufs, de lait et de volaille. C'est un modèle...
Donc, on est très protectionniste, nous aussi, dans notre économie.
On est...
Parce que avec ce que... Puis ça, tu me disais que tu étais parti dans une lubie corner, puis tu avais raison. Là. Mais ça, par contre, je l'ai toujours dit. J'ai dit, hey, quand on met à mal Donald Trump et sa politique protectionniste économique, on a la même au Canada.
Oui.
On a la même au Québec avec la gestion de l'offre.
On est très protectionniste au Québec. On est très protectionniste aussi au Canada. Mais particulièrement au Québec, on l'est. On ressemble pas mal.
Particulièrement au Québec. C'est pour ça que je me suis surpris. J'ai dit Canada, mais j'ai fini au Québec.
C'est vrai. Mais ça reste un levier. Même si j'admets que c'est un levier sensible, c'est un levier politiquement pas très gagnant d'aller là. C'est politiquement pas gagnant sur le plan de la politique intérieure.
Mm-hmm.
Mais ça peut être très politiquement gagnant face aux géants américains d'aller là.
Oui,
alors, il y a un calcul à faire. On veut gagner avec qui, là? On veut gagner avec nos propres électeurs? À court terme, dans cette vision-là de relations publiques puis de campagne de médiation, de communication, de salissage qu'on aura, parce que c'est sûr que si on laisse tomber la gestion de l'offre, Mark Carney s'expose à une campagne de salissage par les syndicats, par l'UPA, par les médias. Tout le monde va y mettre la main à la porte.
Si je t'écoute, Mark Carney, qui a avoué qu'il allait avoir des tarifs hier, est mieux de sortir d'une négo avec des tarifs que sortir d'une négo en ayant pillonné dans la gestion de l'offre.
Oui,
ça va être gagnant pour lui politiquement.
Oui, et le grand coupable, ça va être Donald Trump.
Exactement.
C'est
donc
lui le méchant, c'est lui qui n'a pas voulu céder, il n'est pas gentil, il a été rough avec Mark Carney.
Ouais.
Mais là, il faut tenir d'autres choses en compte.
Bon, fait là, parce que tu m'as envoyé ce matin. OK, puis j'aime ça quand tu m'envoies des affaires dans le même qui sortent du champ gauche. Je lis. Hey, attention, Mark Carney est lié financièrement à Brookfield et Alphabet au moment où le président Trump orchestre avec ces deux compagnies un méga plan d'intelligence artificielle énergie de 70 à 90 milliards de dollars.
Ouais.
Donc là, tu es en train de me dire, je ne lirai pas la suite, mais je vais le résumer. Tu es en train de me dire que notre premier ministre, Mark Carney, qu'on parlait hier qu'il y a des assises dans plus de 500 compagnies, a des assises importantes dans Brookfield et dans Alphabet.
Ouais.
Trump fait des affaires d'or avec eux pour 70 à 90 milliards de dollars. Et c'est ce Mark Carney-là qui est devant Donald Trump pour lui dire « Mets-moi pas des tarifs. » Là, Trump, il tient des deux côtés.
Hey.
Et il dit « Hey, j'ai des tarifs d'un bord, j'ai 90 milliards pour tes compagnies l'autre bord. » On est foutu dans ce contexte-là.
C'est une position tellement, mais tellement délicate pour Mark Carney. Et c'est des drapeaux rouges, des lumières rouges qui doivent s'allumer dans nos esprits.
Ça pitonne partout, là.
Réveillons-nous, là. Le timing, en plus de tout ça. Donald Trump, hier, était en Pennsylvanie pour annoncer des investissements majeurs, des investissements historiques de 70 à 90 milliards de dollars dans les secteurs d'intelligence artificielle et d'énergie. C'est lié ensemble parce que vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est des modèles, c'est des serveurs, c'est des ordinateurs qui travaillent et qui croisent des données. Ça consomme énormément d'énergie, des centres de données d'intelligence artificielle. C'est extrêmement consommateur. Donc, pour faire croître l'intelligence artificielle, on a besoin de faire croître la production électrique. Et là, Donald Trump met un méga plan parce qu'il veut devenir le premier en intelligence artificielle.
Ouais.
Son concurrent, il ne faut pas oublier, c'est la Chine.
Concurrent
dans sa tête à Donald Trump, c'est la Chine.
Ah,
la Chine qui développe énormément.
C'est la Chine dans tout. Là. C'est la Chine dans les voitures, c'est la Chine dans le domaine manufacturier que lui veut relancer aux États-Unis. T'sais, le concurrent, c'est la Chine.
Oui.
Puis là, il essaie le plus possible d'enrichir les États-Unis pour combattre ça. Puis c'est pour ça qu'il met des tarifs.
Absolument. Et Donald Trump connaît le portefeuille. Ben, il connaît pas la consistance et les détails du portefeuille.
Mais il sait Carney là-dedans.
Mais il sait que Carney détient, c'est public, c'est d'ordre public. Il sait que Mark Carney détient des options et des options d'achat et de vente à long terme. Il détient des actions de Brookfield Asset Management pour y avoir travaillé.
Ben oui.
Donc, une partie de sa rémunération
était... Ça, c'était sorti durant la campagne électorale.
Ben oui, parce qu'une partie de sa rémunération, comme dans ce domaine-là, dans le domaine privé, lorsqu'on est gestionnaire de grandes organisations comme ça, privées, a une partie de notre rémunération, de notre package, c'est des options et des actions. Donc, on sait qu'il y a des participations importantes dans Brookfield Asset Management. On ne connaît pas la valeur, on ne connaît pas tous les détails, mais on le sait, c'est d'ordre public. Donald Trump sait ça. Donald Trump sait aussi que Mark Carney détient un portefeuille avec Alphabet. Alphabet qui est la maison mère de Google. Mm-hmm. Et là, Donald Trump annonce hier, il annonce des investissements historiques dans ces entreprises-là. Donc, Brookfield qui était tellement heureuse, l'entreprise Brookfield qui vient d'entrer dans les plans de développement des États-Unis.
Et là, est-ce que Mark Carney pourrait faire un coup double? Parce que je t'entends avec ça, intelligence artificielle, électricité. Donc, est-ce que notre premier ministre pourrait faire un coup double? C'est-à-dire se remplir les poches personnelles et... vendre de l'électricité à bas prix aux États-Unis en développant des nouveaux projets comme Churchill Falls avec le projet de loi C5. Et cette vente-là à bas prix ferait en sorte qu'on viendrait diminuer le pourcentage de tarifs. Alors Carney, en plus de s'enrichir personnellement, pourrait sortir devant la population et dire « Regardez comment je suis fort, la gestion de l'offre, on y a tenu ». Et on développe des grands projets hydroélectriques ici au Canada pour justement revendre aux États-Unis. Et ça, ça fait en sorte qu'au lieu d'être 30 % de tarifs, c'est 10, c'est 15 %. Je suis en train de voir le bon scénario, moi, là, se dessiner.
Bien, Donald Trump a écrit un livre qui s'appelle « The Art of the Deal ».
Ouais.
On sait que Donald Trump sait comment négocier. On sait que Donald Trump... confond les sphères privées et publiques et se sert de tout ce qu'il a comme information dans ses négociations tout le temps, avec tous les dirigeants de tous les pays, de toute l'histoire de sa façon de fonctionner. Il connaît les points forts et les points faibles de ses interlocuteurs, donc il connaît la situation personnelle et politique de Mark Carney. Et là, vous pensez que Donald Trump, il négocie sur les tarifs et qui n'a pas en tête, dans tout le portrait global, l'idée que Mark Carney détient des actions et des intérêts financiers importants dans certaines entreprises. Vous pensez vraiment que Donald Trump n'est pas capable, au téléphone, en privé, de dire... Oui. Écoute, listen.
Ah oui. De toute façon, j'ai assez interne, là.
It's gonna stay the same. Let's put on the tariffs, puis... you'll see, tu sais, tu le regretteras pas, là.
Mais non.
Laisse-moi ça de même, là. Puis inquiète-toi pas, là. Je suis en train d'annoncer des investissements. D'une manière ou d'une autre, tu vas te retrouver gagnant, là.
C'est ça. Puis de toute façon, t'as pas besoin d'être Donald Trump pour ça. N'importe qui qui négocie regarde le point faible de son adversaire puis dit, haha, parfait, c'est là que je cible. Et là, Mark Carney, avec ses problèmes d'éthique, parce qu'on le rappelle, détient des actions dans plus de 500 entreprises.
570.
Ben, c'est le point faible que Donald Trump vient de trouver.
Ben oui.
Puis il n'a pas eu besoin de le trouver. Il est au grand jour, ce point faible.
Ouais. Et là, on ne peut pas présumer non plus, je tiens à le dire, de la mauvaise foi de Mark Carney.
Non, non, non,
on peut
ça,
pas
c'est
présumer
clair.
De la mauvaise foi de Donald Trump, quoique les médias ne font que ça, présumer de la mauvaise foi de Donald Trump depuis le départ. Mais il reste que quand on ne connaît pas la valeur du portefeuille de notre premier ministre canadien, on ne connaît pas non plus le pourcentage ou les proportions de ses intérêts financiers dans certains secteurs plutôt que d'autres. Quelle est la proportion de son portefeuille dans les énergies renouvelables, dans Google, justement, dans Alphabet? Quelle est la proportion de son portefeuille? Est-ce que c'est 2 % ou c'est 30 % de son portefeuille qui est dans Brookfield et dans Google? On ne le sait pas. On sait qu'il détient 574 titres. On sait qu'il est lié ou qu'il a été lié avec 103 entreprises où il s'est créé un écran, là, un pare-feu, parce que là, il y en a qui me disaient sur mes réseaux sociaux, mais là, tu mentionnes pas qu'il a créé une fiducie sans droit de regard. Fait que là, tout est correct. Ses actions sont dans une fiducie sans droit de regard, mais on en parlait hier.
Ouais, on en parlait hier, c'est que la fiducie sans droit de regard, c'est que je sais qu'est-ce que je détiens. Mais... Et c'est pour ça que Pierre Poilievre demande à Mark Carney, vends tout.
Ben oui.
Et avec les profits que tu auras fait, là, ça va être une fiducie qui va s'occuper de ça, qui va réinvestir comme ça. Tu ne sauras pas où tes assets ouais. sont placés.
C'est, en même temps, on n'a jamais demandé ça à aucun élu. Donc, le demander à Mark Carney, c'est de créer un précédent ou c'est du moins avoir des conditions différentes pour lui que pour les autres. C'est pour ça qu'en campagne électorale, il fallait aussi comprendre que quand on met à la tête d'un pays, un banquier, un économiste, un ex-banquier qui détient des intérêts financiers importants, ça vient avec... des perceptions, du moins, de conflits d'intérêts. Ça vient avec la perception qu'il peut avoir une frontière brouillée entre le personnel et le professionnel. Comment il négocie, comment ses adversaires négocient avec lui compte tenu de toutes ces informations. Mais c'est quand même spectaculaire, ces investissements qui ont été annoncés hier. N'oubliez pas que pendant ce temps-là, Mark Carney doit négocier sur les tarifs douaniers, la taxation des GAFAM. Ah! Attends une minute! J'ai parlé de timing tantôt.
Oui.
On vient pas d'annoncer que finalement, on retire l'idée de taxer les GAFAM. Google, Amazon...
Bien sûr!
On vient d'annoncer ça.
Ben oui.
Mark Carney vient de dire, c'est beau. C'est beau, Google, je te taxerai pas.
C'est ça.
Une semaine après, Trump...
On apprend.
Trump subventionne largement Google.
Et on apprend que Carney a des assises dans Google.
Allô?
Pas pire, hein?
Allô?
Mathias, vous voulez ajouter?
Oui, ben justement, savoir c'est quoi le pourcentage que de ces avoirs qui sont placés dans les différents titres financiers, parce que veux pas, à 574 titres financiers, c'est un banquier, ça doit être des dizaines et des dizaines de milieux différents. C'est des investissements intelligents. Fait que tu peux pas encourager tous ces milieux-là, mais de savoir... À la limite, s'ils veulent pas donner de montant, c'est quoi le pourcentage qui est dans tel secteur, dans telle entreprise, tout, pour vraiment dire, OK, tu peux voir si le premier ministre décide, j'avantage tel secteur parce que j'ai 30% dans ce secteur-là. Avoir ce chiffre-là, ça serait très pertinent pour savoir justement, hey, choisis-tu par exprès des secteurs stratégiques ou qu'il y a une majorité de ses avoirs dans ces secteurs-là?
Ah ouais, c'est non seulement pertinent, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Puis moi, je vais plus loin.
Nécessaire pour la démocratie.
Oui, puis faut qu'on sache la valeur de ce portefeuille-là parce que faut qu'on soit capable d'évaluer dans 4 ans, à la fin de son mandat, ou dans 8 ans, parce que ça se peut qu'on y fasse 2 mandats.
Ouais.
Est-ce que son portefeuille a doublé, triplé, quadruplé?
En effet.
C'est important qu'on
sache
durant la période où il avait une influence sur les politiques publiques, une influence sur les décisions prises par son cabinet aussi dans tous les ministères.
S'il a fait des gains personnels, c'est très nécessaire de savoir.
Puis t'as raison, Mathias, de souligner, il faut connaître aussi la proportion et le pourcentage dans ces entreprises-là, parce que déjà, on voit des investissements et... Tu retires la taxe sur Google, tu retires la taxe sur les GAFAM,
je te l'avais
Google,
dit hier,
une
je te
semaine
l'ai dit.
Après, Donald Trump se revire de bord, puis il dit, on investit de façon historique dans ces entreprises-là. En même temps, c'est vrai qu'il faut investir en intelligence artificielle, tout fait du sens, mais comme par hasard, les négociations n'avancent plus pour les Canadiens. C'est nos intérêts à nous, là. Les Canadiens, nos intérêts n'avancent plus. Et on se fait dire par notre premier ministre à 2 semaines de l'échéancier, « Ouais, je pense pas qu'on... Je suis pas très confiant qu'on va arriver à quelque chose, à du progrès quelconque. » Donc, nos intérêts, ça avance pas.
Non,
mais
nos intérêts
privés,
pas.
Eux, sont, c'est déjà parti
T'as
pour la gloire.
T'as entièrement raison. Je termine avec le texto d'Alexandre, et merci de nous avoir écrit. Puis, écoute, Alexandre, t'as entièrement vrai... T'as très raison dans ce que tu dis. Personnellement, ça me dérange pas que notre premier ministre ne dévoile pas son portefeuille. Bon, moi, je veux qu'il le dévoile, mais je le voyais plus dans le sens, ça ne me dérange pas que mon premier ministre ait de la richesse, là.
Ah
si on veut quelqu'un d'économique, là. Parce que si on n'a pas les meilleurs au poste-clé, on doit accepter qu'ils ont des avoirs possiblement dans plusieurs domaines, sans quoi nous allons placer des professeurs de théâtre à la tête du pays. Ouais, c'est vrai, on veut peut-être plus d'un professeur de théâtre.
Mais l'idée, c'est pas de... Je suis pas en train de dire que c'est problématique qu'on ait une personne riche à la tête de notre pays.
Non.
Ce qui est problématique, c'est l'organisation du système en ce moment qui permet ce genre de situation hautement troublante. Et je suis pas la seule à le mentionner. Il y a vraiment l'organisme Democracy Watch à Ottawa, un organisme qui existe depuis plus de 30 ans, qui surveille les problématiques d'éthique au sein des gouvernements fédéral et provinciaux, qui a alerté les Canadiens hier en disant « Wow, cette fiducie sans droit de regard, de toute façon, c'est un écran de fumée. Là. Mm-hmm. C'est vraiment un écran de fumée, cette fiducie sans droit de regard, parce qu'elle est, est sous le contrôle quand même de gens nommés par Mark Carney. Et c'est un portefeuille qu'il connaissait avant de le confier dans la fiducie. Donc, il connaît, là.
Non, c'est ça. Jacinthe, merci infiniment pour toutes ces informations. On fait une courte pause, puis par la suite, on va parler du RTC qui se pète les bretelles de ses chiffres à vélo.
Il est content que vous preniez le vélo.
Ouais.
C'est populaire.
Mais il n'y avait pas d'autobus. Mm. On en parle après la pause. Boulevard 102.